Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, ravi d'être avec vous. Hein. En ce lundi 13 novembre, on va encore vous gâter de 19h à 20h30. On aura la partie foot dans la dernière partie de cette émission, comme d'habitude, avec notre ami Stéphane Desenclos. On parlera aussi MMA avec une nouvelle rubrique. Il est là avec nous, c'est sa grande première aujourd'hui. C'est Benoît que je salue. Bonsoir Benoît.
Bonsoir tout le monde.
Ouais, donc tu viendras nous parler tous les deuxièmes lundis de ce sport qui est ton sport favori maintenant.
Exactement. Hein. Ouais. Bah voilà, je pense que c'est un sport qui monte en France, donc j'ai hâte de vous le présenter.
Très bien. Et puis bah je salue Laura hein, qui nous a concocté encore un beau journal des sports. Ça va Laura ?
Bonsoir Philippe, bonsoir ouais. À tous. Oui,
il y a
super.
Il y a eu beaucoup d'actu sportive.
Oui, pas mal, on va pouvoir en parler.
Alors, on devait avoir aussi comme invité pour parler de dart, hein, parce qu'on aime tous les sports, hein, c'est la vocation de cette émission. On devait avoir donc un invité, monsieur donc Courriche. Malheureusement, bah, il est grippé, monsieur Courriche, il nous a appelé ce matin, il avait une petite grippe, donc il ne pourra pas être là. Mais je pense qu'il y a un de ses collègues qui est avec nous, qui est au téléphone depuis la Belgique, c'est Swan Borsellino. Swan, bonsoir.
Bonsoir, oui, je suis bien là.
Ouais, comment ça va Swan? Ça va?
Bah, tout va bien, je m'apprête à aller travailler, mais je suis heureux de partager ce moment avec vous.
Voilà, alors on l'a dit, hein, M. Courriche devait être avec nous ce soir, il est malade, mais enfin vous allez tout à fait pouvoir parler de son club. D'abord une question, vous venez du monde du foot, comment on en arrive aux fléchettes?
Alors c'est une bonne question, je pense que j'en suis arrivé par le même endroit que le foot, à savoir l'héritage familial et culturel.
Oui.
La passion du sport m'a plutôt été transmise par mon papa, et il se trouve que mon oncle, le frère de mon papa, est le gérant d'un pub irlandais à Paris dans lequel on pratique beaucoup les darts et les fléchettes.
D'accord.
Du coup j'ai été un peu élevé là-bas quand j'étais petit, ce qui m'a appris quelques valeurs sociales et aussi le don de jouer aux fléchettes. Voilà.
D'accord, ok. Mais toujours autant passionné de foot, hein?
Oui, toujours. Mais disons que le foot est mon métier et que les fléchettes sont ma passion. Voilà,
d'accord.
On va faire ça comme ça.
Très bien, ok. Alors justement, on va présenter un peu mieux ce sport qu'on voit de plus en plus maintenant à la télé à travers nos amis d'équipe.
Oui, tout à fait. Et je peux même vous couper l'herbe sous le pied et vous dire que j'ai l'honneur de les commenter.
Bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Comment vous expliquez cette vogue pour les fléchettes?
Bah, en fait, je l'explique assez simplement. Je pense que c'est un... Certains l'appelleront un sport, d'autres l'appelleront un jeu. Je fais partie de la première école, mais qui ne demandait qu'à avoir un petit peu d'exposition, notamment en France, parce qu'il y a d'autres pays dans lesquels l'exposition n'était absolument pas nécessaire, puisque les fléchettes s'inscrivent dans le patrimoine culturel de ces pays. Je pense notamment aux pays anglo-saxons, mais pas que. Et je crois que le produit en lui-même, notamment le produit télévisuel qui est réalisé en Angleterre par la Sky notamment, est tellement bien fait qu'il en vient à être intéressant même pour les gens finalement qui à la base n'y connaissent pas grand-chose.
Et donc il y a de bonnes retombées aujourd'hui de plus en plus finalement à travers toutes les compétitions qu'on voit, des gens se mettent à la pratique de ce sport.
Oui, je pense que déjà les gens sont en quête d'amusement et de divertissement de manière générale. Ça a peut-être été encore plus le cas après la pandémie.
Oui, bien sûr.
Et je crois que pour avoir quand même pas mal fréquenté les établissements de bars qui proposent des fléchettes ou des billards, mais notamment les fléchettes, c'est un jeu auquel on se prend vite, auquel il est facile de jouer entre amis et surtout auquel je trouve on progresse très vite. C'est-à-dire que vous allez venir une fois, vous n'allez pas être bon, vous allez revenir une deuxième fois, vous allez progresser un petit peu, donc forcément ça donne un petit peu envie. Et je pense que, en effet, notamment en France, le fait que ce soit un petit peu de plus en plus exposé, ça va forcément amener des gens à s'y mettre. Moi je sais que voilà, on va être amené à parler du club, mais aujourd'hui, je ne suis pas très vieux moi-même, hein, j'ai bientôt 32 ans, mais aujourd'hui, il y a un vrai intérêt de garçons et même d'adolescents beaucoup plus jeunes et même de filles qui souhaitent s'y mettre, alors que ce n'était pas forcément très populaire chez les jeunes avant, notamment en région urbaine.
Ouais, donc c'est ça, hein, on commence comme ça en loisir quand on va dans un café, un petit peu comme le billard ou le baby-foot dans le passé, et puis ensuite on en fait et on en vient en compétition, à travers des clubs qui se créent, à travers tout ça justement.
Oui, à travers tout ça, et après aujourd'hui il faut savoir que voilà, ça ne me concerne pas parce que je n'ai évidemment pas le niveau nécessaire pour pouvoir avoir ce genre d'opportunité, ouais. Mais aujourd'hui la PDC, donc la Professional Darts Corporation, qui est l'espèce de fédération internationale de fléchettes, a mis en place un circuit que je pourrais, si vous d'accord. connaissez le sport, comparer un petit peu au circuit de tennis.
Oui, bah, c'est une question que j'allais poser.
Au circuit ATP, et en fait aujourd'hui il y a tellement de compétitions et tellement de maillages de compétitions différents que des jeunes joueurs peuvent s'y mettre avec vraiment l'envie de devenir professionnel et de gagner sa vie aux fléchettes, ce qui n'était pas du tout le cas avant, quand le sport a commencé à être très populaire dans les années 70-80.
Oui, justement, on allait y venir. Mais auparavant, il y a eu donc la création d'une fédération française. Donc c'est vraiment devenu un sport officiel et reconnu.
Oui, la Fédération française de darts, pour le coup, existe depuis un bon petit bout de temps, hein, parce que j'étais licencié quand j'étais très jeune.
Je crois me souvenir, c'est 1976, hein, si je ne me trompe pas.
Voilà, ensuite, Non, je vous laisse revenir, il n'y a pas de souci. Oui.
Après, il y a eu 6 ligues régionales de créer et 18 comités départementaux. Voilà.
Oui, tout à fait, avec des régions qui sont plus dynamiques que d'autres historiquement, qui sont d'ailleurs, pour poursuivre le parallèle géopolitique et sociales, souvent des régions soit de culture un petit peu anglo-saxonne type la Bretagne et le nord de la France, soit des régions plus qui ont la culture du sport d'intérieur, je dirais. Mais petit à petit, voilà, bébé grandit et on s'y met un petit peu partout en France.
Oui, et alors, donc, à Paris, il y a à peu près une quinzaine de clubs.
Oui, alors il y a eu, y en a eu qui sont nés, d'autres qui sont morts, d'autres qui sont renés de leurs cendres, donc ça bouge pas mal, mais j'ai quand même envie de vous dire aujourd'hui que la tendance est très positive, et on en parlera certainement après, mais ce que fait Stéphane au Spoutnik, c'est quand même un super signe, je trouve, de ce qui est en train de se passer, parce qu'en l'espace d'un petit été, on s'y est remis tous et on a monté 3 équipes déjà, et l'engouement n'est pas en train de s'arrêter, j'ai l'impression.
Alors justement, vous, comment vous avez rejoint le Spoutnik Dart Club de Paris?
Alors, pour une raison assez simple, en fait, moi, avant, je jouais dans un club au Hurling Pub dans le 5e arrondissement de Paris, qui est un des clubs historiques de Paris, qui s'appelle le HODC, qui n'existe plus aujourd'hui. Ah. Et par la force des choses, avec l'envie de pratiquer, on est venu faire des tournois organisés au Spoutnik, parce que le Spoutnik organise des tournois tous les mercredis qui sont ouverts pas uniquement aux membres du club, mais absolument tous les joueurs. Donc ça peut être des habitués du bar, des gens de passage, des touristes, n'importe qui, pourvu que vous sachiez qu'il y a un tournoi. Et au bout d'un moment, Stéphane s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de gens, qu'on avait tous envie de reprendre les fléchettes en club, ou de, pour certains, de s'y mettre, ceux qui n'avaient jamais essayé. Et du coup, ça s'est fait un petit peu comme ça, voilà.
D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes combien de membres et de licenciés dans ce club, officiellement ?
On est quand même un paquet. On a 3 équipes et dans chaque équipe, il y a au moins 8 joueurs. Donc, on est quasiment une trentaine. Et au-delà des licenciés, il y a quand même beaucoup de sympathisants qui viennent au tournoi, mais qui n'ont pas pris de licence, soit parce qu'ils n'ont pas envie de faire de compétition, soit parce qu'ils ne sont pas forcément là tout le temps, soit parce qu'ils le feront après. Voilà.
La tranche d'âge, elle est de combien dans ce club ? Parce que c'est un sport qu'on peut pratiquer à tout âge, finalement, hein ?
Oui, bien sûr. Le meilleur joueur de l'histoire, ça s'appelle Phil Taylor, qui a été 16 fois champion du monde. Je crois que son dernier titre, il avait plus de la cinquantaine quand il l'a eu. Donc ça prouve que c'est un sport dans lequel on peut durer, même si aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes. Mais là, dans notre club, nous, il y a un petit jeune qui s'appelle Paul, qui a une quinzaine d'années. Donc pour vous dire, on peut commencer quand même assez tôt. Et il y a des anciens. Il y a une grosse branche de jeunes trentenaires aussi. Donc voilà, c'est pas un grenier avec des toiles d'araignée et des gens. C'est pas forcément. Si vous veniez, je pense que vous seriez surpris de voir la typologie de personnes.
Alors justement, on peut inciter donc les gens à y aller. On va rappeler que c'est dans ce beau quartier de la Butte aux Cailles, hein, 14 et 16 rues de la Butte aux Cailles. Donc il n'y a pas de problème, on rentre au Spoutnik, on regarde éventuellement les matchs, on s'informe. On peut même les autres soirs faire quelques essais comme ça pour s'amuser.
Exactement, il y aura toujours quelqu'un pour vous donner 2-3 conseils et pour vous dire comment faire si vous avez envie. On vous laissera vous débrouiller tout seul si jamais vous n'avez pas envie qu'on vous aide. Mais oui, c'est le but. Hein. Le club a été bâti et je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens ont adhéré à ce que proposait Stéphane et toute son équipe. C'est que ça a été bâti sur un contexte social et amical très fort.
Bien sûr.
Franchement, je vais vous dire un truc, je vais vous dire quelque chose de tout à fait dont tout le monde se moque, mais c'est pas grave. Je suis en Belgique pour le travail actuellement. J'y serai à nouveau mercredi pour commenter un match de la Belgique et je reviens demain soir au Sputnik juste pour faire un match avec l'équipe et pour voir les copains. Donc c'est un peu, je pense que n'importe qui au club serait capable de faire ça. Donc c'est vous dire que l'ambiance est bonne et que c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur.
Donc c'est ouvert à toutes les tranches d'âge. Et puis est-ce qu'il y a beaucoup de femmes?
Comment?
Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui font ce sport, de femmes ou de jeunes filles?
Alors de plus en plus. Il y en a toujours une dans le club. On en a aussi. Et je pense que ça va être amené à développer pour une raison assez simple, c'est que pendant longtemps, on n'avait pas forcément de femmes auxquelles s'identifier chez les stars des Fléchettes. Et aujourd'hui, de plus en plus de femmes sont amenées. Il y a un tournoi en ce moment qui s'appelle le Grand Slam of Darts. Il y a une jeune fille d'une vingtaine d'années qui s'appelle Beau Greaves qui est en train de jouer à un niveau absolument extraordinaire. Et je pense que grâce à elle, de nombreuses jeunes filles vont vouloir se mettre aux Fléchettes. Elles n'avaient pas forcément de modèle avant elles. Et aujourd'hui, ça va être le cas. Donc, il n'y a aucune raison pour que ce sport ne soit pas beaucoup plus mixte qu'il ne l'est aujourd'hui.
Mmh. Donc, quand on décide de prendre une licence, c'est combien le prix ?
Alors là, cette année, on a payé, il me semble, 60 euros.
Oui, donc ça reste très correct.
Oui, ça reste très correct, sachant que les Fléchettes, c'est pas un sport qui coûte cher pour la bonne et simple raison que je le dis à tous mes amis qui veulent s'y mettre, qui sont mis d'ailleurs. Une bonne cible, ça coûte 40 euros, vous pouvez installer à la maison. Un jeu de fléchettes, c'est assez abordable. Et la licence, alors elle sert évidemment à s'inscrire. Et en plus de ça, on donne une petite somme d'argent au club pour que Stéphane, en l'occurrence, mais ça a été le cas dans tous les clubs, puisse acheter un petit peu de matériel, des cibles et des choses comme ça pour qu'on puisse s'entraîner tranquillement et avoir des meilleures infrastructures possibles pour jouer.
Oui, parce que bon, une fois qu'on a pris une licence, on vient s'entraîner dans le club. Bon, ça c'est ouvert donc pour tous les licenciés, mais après il faut continuer quand même à s'entraîner chez soi. Donc il faut quand même une cible et puis du matériel, son propre matériel.
Après, ça dépend. En fait, c'est ça qui est bien, c'est que pour certains c'est un jeu, pour d'autres c'est un sport, et c'est selon le degré d'intensité qu'on a envie de mettre dans sa pratique aussi. Moi, je sais que j'ai une cible à la maison parce que j'aime ça, et que le matin, quand je me fais mon café, je lance quelques fléchettes et ça fait plaisir. Mais là, c'est vraiment chacun voit midi à sa porte là-dessus, quoi.
Et puis le matériel, il coûte cher. Je suppose que ça a beaucoup changé les cibles et puis aussi les flèches.
C'est quoi, tout a changé, ouais. Tout évolue, c'est de plus en plus.
En acier, en carbone.
Oui, en fait, en tungstène aussi pour certains, puisqu'on en est à parler de matière physique et chimique. Mais aujourd'hui, il y a un peu plusieurs écoles. Il y a les meilleurs joueurs français, que sont Jacques Labre et Thibaut Tricol, jouent avec du matériel que je trouve relativement simple. Donc ça prouve qu'on n'a pas besoin d'avoir des fléchettes à 300 euros pour être un génie de la fléchette. Mais aujourd'hui, je dirais que quand vous commencez les fléchettes, vous avez une cible à 40 euros, un jeu de fléchettes à 30-40 euros si vous voulez pas le haut du haut de gamme, et vous devez acheter des tiges et des ailettes parce que c'est la seule chose qui est périssable sur une fléchette. La tige, c'est ce qu'il y a au bout et qui permet de venir clipser les ailettes dessus. Mais ça, c'est des choses qui coûtent 2-3 euros maximum par paquet de 3, quoi. Ça coûte rien.
Et ça, c'est du matériel qui dure une saison ou qui peut durer encore plus longtemps?
Alors moi, les fléchettes, alors quand je vous dis la base des fléchettes, donc c'est ce que vous voyez en acier avec les pointes, etc., ce que je ne change pas, j'ai les mêmes depuis que j'ai 14 ans. J'en ai 32 aujourd'hui.
D'accord. Ouais.
Donc on peut dire que c'est un bon investissement, je pense.
Oui, bien sûr. La cible, c'est pareil, ça a beaucoup changé. Ce sont des cibles maintenant électroniques, hein, pour la plupart, dans les compétitions.
Alors non. En fait, il faut savoir que les fléchettes électroniques et les fléchettes traditionnelles ne sont pas considérées comme étant le même sport. En fait, nous, on joue aux fléchettes traditionnelles.
Ah d'accord. D'accord.
Voilà,
okay.
Exactement. Et je ne vais pas dire qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre. En l'occurrence, moi, je préfère les fléchettes traditionnelles, donc qui sont les fléchettes que vous connaissez ou que certaines personnes ont comme objet décoratif. Et les fléchettes électroniques sont les fléchettes dans lesquelles on peut jouer avec l'ordinateur qui compte les points pour vous. C'est beaucoup plus répandu en Asie notamment, mais c'est pas exactement la même chose.
D'accord. Expliquez-nous un petit peu les règles finalement donc de ce sport qu'on appelle le dart. Donc moi je le sais, mais comment ça se passe d'une façon générale une compétition?
Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe autant de règles du jeu et de jeux différents qu'il existe de bars et de pratiquants.
D'accord.
C'est un petit peu comme les jeux de cartes, si vous voulez.
D'accord.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a la cible et des flèches, On peut jouer à tout un tas de jeux, certains plus ludiques, certains en équipe, certains pour s'entraîner et d'autres. Donc j'ai envie de vous dire que s'il n'y a pas un jeu en lui-même, c'est comme la suite de fléchettes, et les fléchettes sont comme un espèce de jeu de cartes, et après on peut pratiquer tel ou tel jeu. En revanche, dans les grandes compétitions, notamment de fléchettes traditionnelles ou dans nos matchs qu'on va discuter demain soir, il y a un jeu qui est roi, il s'appelle le 501, donc c'est certainement le jeu que vous connaissez. Oui. Donc le but, c'est de partir, on part de 501 points, et le but, c'est d'arriver à 0 pile. D'accord. Et pour arriver à 0 pile, en fait, vous allez utiliser les chiffres qui sont sur la cible, avec vos trois fléchettes, et avec deux petites subtilités, je dirais, c'est le cercle intérieur qui triple les points et le cercle extérieur qui dédouble. Donc ça vous permet de faire le plus de points possible. Le but, c'est de faire le plus de points possible à chaque fois pour arriver à zéro avant son adversaire.
D'accord. Et quel que soit le nombre de lancers, il n'y a pas de problème ?
Un lancer, c'est trois fléchettes. Donc chacun son tour, on lance trois fléchettes. D'accord. Et après, si vous êtes très fort, vous le faites en 9 fléchettes, ce qui est la partie parfaite. Et si vous êtes très nul, vous le faites en 100 fléchettes, et dans ce cas-là, tout le monde boit des coups en attendant la fin de partie.
Voilà, c'est ça. Donc c'est des matchs qui peuvent durer très longtemps, finalement.
Alors, en général, on fait en sorte qu'ils durent le moins longtemps possible. On s'aime beaucoup, mais on évite de finir les matchs à 3h du matin. Ouais. Mais il n'y a pas de... Enfin, si le match n'est pas fini, il n'est pas fini, quoi. Il faut que quelqu'un gagne. Il n'y a pas de 0-0 comme en foot.
Oui. Alors, il y a des compétitions individuelles. Il y en a aussi en double ou même en triple. Par équipe ?
Alors en fait, il y a des compétitions individuelles. La plupart des compétitions se jouent en individuel. On joue pour sa pomme.
D'accord.
Sauf que, en l'occurrence, quand nous, on joue en championnat de Paris, et comme ce sera le cas demain, d'ailleurs demain, c'est derby entre deux équipes du Sputnik, donc autant vous dire que ça va se mettre sur la gueule.
D'accord, les auditeurs peuvent
si
aller
vous voulez
voir.
Si vous voulez dire en spectateur, vous êtes les bienvenus.
D'accord.
Mais en fait, quand on joue en championnat comme ça, en fait, c'est par équipe de 4.
D'accord.
Et si je devais faire encore une fois une petite comparaison, le format ressemble un petit peu au format de la Coupe Davis. C'est-à-dire qu'il y a des matchs en simple et des matchs en double.
D'accord, ok.
Donc en fait, les 4 joueurs de chaque équipe vont affronter les 4 autres joueurs de l'autre équipe en simple.
Ah oui.
Et il y a 2 équipes de double qui s'affrontent aussi chacune. D'accord. Donc en tout, ça fait 20 matchs.
Ah ouais,
donc
c'est
un match dure 20 matchs.
Et puis, j'imagine, dans une ambiance de folie, parce que le public, il faut qu'il soit enthousiaste ou calme, de façon à ce que les tireurs puissent se concentrer.
Alors ça dépend. Ça fera rire les copains, parce que moi j'aime bien quand c'est calme.
Ouais.
Mais il faut... si jamais un jour vos auditeurs ont la curiosité, il suffit d'aller sur internet pour voir l'ambiance qui règne dans les tournois de fléchettes professionnels, qui est complètement festive et que je recommande à n'importe qui aimant bien s'amuser un petit peu et découvrir une nouvelle culture.
Mm-hmm.
Mais nous, globalement, je dirais que l'ambiance est festive et moqueuse, mais ça va quoi, ça va. C'est pas...
Oui, parce qu'il doit y avoir un petit peu d'intox, c'est un petit peu pour déstabiliser aussi l'adversaire.
Alors il y a un petit peu d'intox, il y a un petit peu d'intox, et en plus de ça, c'est un sport, là-dessus je comparerais plus au golf, où au final, il y a beaucoup de frustration parce que vous répétez des gestes que vous savez très bien faire, le moindre petit stress ou le petit dérangement peut vous faire rater la cible assez facilement parce que vous visez quelque chose qui est tout petit en fait. Parfois ça va être facile à la télé ou quand on regarde des gens jouer, mais c'est difficile, du coup c'est un jeu auquel il est assez facile de se frustrer, donc il faut être mentalement assez solide.
Oui, la cible elle est à combien du joueur ou de la joueuse quand on lance ?
Alors le pas de tir est à 2,37 m de la cible, pour
D'accord.
être exact.
D'accord, et la hauteur, donc c'est à peu près à quelle distance la hauteur ?
Alors la hauteur, le centre de la cible, donc le centre rouge, est à 1,73 m.
D'accord, ok. Alors naturellement, il faut de grosses qualités mentales. Hein. C'est ce qui fait la différence dans ce sport ?
Alors il y a 2 différences.
Ouais.
La première, c'est la qualité mentale, ça c'est une certitude. Et la deuxième, c'est la qualité de calcul. Ça peut paraître anecdotique quand on ne joue pas.
Ouais, tactique.
Mais en fait, savoir compter, je dirais que ça fait 50% d'un bon joueur de fléchettes.
D'accord. Est-ce que sur le plan physique, finalement, il n'y a pas d'archétype de profil grand, petit, ça n'a pas de conséquences ?
Moi, bon, je vais continuer votre phrase parce que vous pensiez certainement à gros ou mince aussi, mais
pareil,
en vrai de vrai,
ou plus engoupé, voilà.
En vrai de vrai, je dirais que malheureusement, pendant des années, notamment parce que les superstars de ce sport n'était pas forcément très en forme. Il y a eu un cliché autour du joueur de fléchette qui devait être un petit peu bedonnant et peu sportif. Mm-hmm. Aujourd'hui, pour moi, suivre les fléchettes quand même l'actualité assez quotidienne, les jeunes joueurs qui arrivent sont des gens plutôt en forme dont vous pourriez dire qu'ils font un autre sport. Ou en tout cas, dont vous ne diriez pas qu'ils sont des piliers de bain, ça c'est une certitude. Mm-hmm. Et globalement, par rapport aux aptitudes physiques, au-delà de la capacité à viser, en fait, il y a deux choses qui comptent pas mal. C'est le bras, parce qu'en fait, quand on ne joue pas du tout aux fléchettes, passe une soirée à lancer des fléchettes, mine de rien, il y a des gens qui parfois me disent « mais punaise, j'ai eu des courbatures le lendemain », ce qui est vrai. Ça peut, vous allez en rire là, mais je vous défie d'essayer.
Non, mais c'est vrai.
Et la deuxième, c'est quand même globalement le gainage et le dos, parce que c'est parfois des moments où on reste en fait très longtemps debout, en position debout. Et encore nous, ça va, parce que c'est des matchs qui durent pas extrêmement longtemps, mais les joueurs professionnels parfois passent une journée entière à jouer aux fléchettes. Et en fait, au bout d'un moment, si vous n'êtes pas bien dans votre corps, ça peut commencer à peser un petit peu, quoi.
Donc, il faut faire de la musculation, quoi, comme un sportif
Plutôt être en forme, mais de toute façon, moi, je crois qu'être en forme, ça aide dans tous les sports, même les sports de réflexion. Les joueurs d'échecs vous diront la même chose, les joueurs de golf vous diront la même chose. Donc, je pense que, de toute façon, aujourd'hui, si vous voulez être plutôt bon, c'est plutôt dans votre intérêt quand même.
Oui. Alors il y a, vous en avez parlé tout à l'heure, un classement individuel type golf ou bien tennis.
Oui, exactement. Plus type golf dans le sens où le classement mondial de la PDC en fait est rangé en fonction du prize money de celui qui a gagné le plus d'argent en compétition. Donc au golf, ça fonctionne exactement comme ça. Et aujourd'hui, le numéro un mondial, c'est quelqu'un qui sur l'année a gagné plus d'1 million d'euros. Donc il faut se rendre compte que c'est quand même un sport qui aujourd'hui offre, je dirais, à son top 32 au moins des conditions de vie qui sont quand même extrêmement positives.
Oui, donc ça veut dire qu'en France, on peut quand même vivre de ce sport ou alors il faut partir et notamment tenter sa chance, par exemple, aux USA ou dans certains autres pays.
Alors c'est pas aux USA en l'occurrence, mais c'est surtout en Angleterre.
C'est toi, Isabelle, qui a dit.
C'est en Angleterre qu'il faut aller. Oui. C'est là-bas que la plupart des tournois se passent. Et aujourd'hui, les deux meilleurs joueurs français dont ils peuvent dire que c'est leur métier, Thibaut Tricol et Jacques Labre, sont des garçons qui font des tournois en Angleterre notamment.
Oui, ce sont des partenaires qui les sponsorisent carrément, qui les font vivre, quoi.
Oui, ils ont des partenaires. D'ailleurs, Stéphane Osputnik a sponsorisé un petit peu Jacques Labre aussi.
Ah oui.
Pour reprendre la métaphore du tennis, ce sont des garçons qui voyagent énormément, qui ont des frais de voyage, d'hôtel, etc. Et quand vous n'êtes pas forcément garanti d'être dans les meilleurs à la fin du tournoi, vous dépensez beaucoup d'argent sans parfois en gagner. Donc c'est bien, qu'ils puissent avoir un petit peu d'aide.
Quelles sont les compétitions les plus importantes, et sur le plan individuel et sur le plan collectif? Il y a une Coupe du Monde des clubs, il y a une Coupe d'Europe des clubs, il y a...
Alors en France, la compétition la plus importante, c'est l'Open de France.
Oui.
Mais là, vous me parlez de la compétition la plus importante, le Graal pour n'importe qui, ça va bientôt arriver. Pour ceux qui ont...
Ah, on a eu une petite coupure avec notre ami qu'on va essayer de rappeler tout à l'heure. Donc, je voudrais quand même connaître un petit peu Benoît, son opinion. Benoît, là, tu connais pas trop le dart, ça te plairait d'essayer ?
Franchement, ouais, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. J'avoue, c'était une découverte. J'aurais jamais pensé qu'il y ait un tel engouement autour de ce sport.
Vous pouvez raccrocher.
Très bien. Est-ce qu'on a retrouvé notre ami ? Ah, on l'a, ouais. Voilà, ça y est, je crois que... La liaison a été
coupée. Je ne sais pas ce qui s'est passé.
Je ne sais pas, mais enfin bon, ça y est, ça a permis une réaction d'un de nos invités en studio. Donc on parlait, oui, des compétitions les plus importantes dans une saison.
Oui, je vous disais, il n'y a pas de souci, j'ai pas perdu la boule entre-temps. Il y a le championnat du monde de fléchettes qui va commencer qui commence toujours la troisième semaine de décembre et qui finit peu après le 1er de l'an.
Mm-hmm.
Et juste pour que vous puissiez vous rendre compte qu'on ne connaît pas forcément les fléchettes, mais la fédération a vendu 90 000 tickets pour accéder au match.
Oui, effectivement.
Qui aura lieu au Alexandra Palace de Londres, qui est une grande bâtisse victorienne dans laquelle il y a eu beaucoup de concerts, etc. Donc c'est quand même quelque chose qui est vraiment, vraiment colossal.
D'accord. Et ensuite, d'autres compétitions importantes dans une saison ?
En fait, vraiment, j'insiste là-dessus, sur le circuit de la fédération. On est vraiment sur un circuit similaire au tennis, il y a des compétitions toutes les semaines.
Mmh.
En France, il y a des Open qui sont réservés aux joueurs français, notamment, qui sont organisés très fréquemment. Mais moi qui suis des fléchettes internationales, il y a des tournois absolument tout le temps.
D'accord. D'accord, ok. Finalement, pourquoi ce sport, il ne serait pas sport olympique un jour ?
Alors, c'est vous poser la question à la mauvaise personne, parce que personnellement, quand je vois que, et ce sont des sports que je respecte, hein, mais que le tir au pistolet à 10 mètres...
C'est pour ça que je vous pose la question.
Est une discipline olympique.
Oui.
Ayant, moi, joué aux fléchettes à mon petit niveau, je trouve que ce jeu a toutes les raisons d'être sport olympique. À Paris 2024, il y aura du breakdance. C'est un phénomène culturel qui est très important, notamment pour ma génération, mais je ne vois pas en quoi le breakdance serait plus un sport que les fléchettes. Donc, si vous me demandez à moi, je ne vois aucune raison. Après, je sais aussi que pour être sport olympique, il faut répondre à certains critères,
oui,
etc. Et je ne suis pas sûr que la Fédération de fléchettes aujourd'hui soit dans cette démarche-là, alors qu'ils sont dans une démarche d'expansion absolument extraordinaire. Et je pense que, si je peux me permettre, ils ont un petit peu d'autres chats à fouetter que de devenir sport olympique aujourd'hui. Ils sont en tel développement que c'est peut-être pas la priorité, je dirais.
D'accord. Sur le plan sécurité, il y a une sécurité à respecter pour la pratique de ce sport, c'est-à-dire les spectateurs pas trop près quand on lance les fléchettes, par exemple.
De toute façon, après, pour être tout à fait franc, j'ai rarement vu des accidents.
Oui.
Mais de toute façon, quand vous jouez un match, par exemple, les gens sont derrière vous et derrière la cible. Donc normalement il n'y a pas de fléchette qui peut leur revenir dans le visage, à part ceux qui parfois scorent sur le côté, marquent les points. Mais globalement, c'est pas malgré les pointes, c'est pas un sport qui est très dangereux, pourvu qu'on respecte la pratique du sport.
Ouais, c'est ça. Non mais par exemple,
c'est-à-dire que parfois il y a des gens qui on peut jamais éviter les gens qui un petit peu fatigués en fin de soirée souhaitent jouer aux fléchettes et font n'importe quoi. Généralement on essaie de les arrêter ou de leur expliquer, mais globalement, à part ce genre de personnes, il n'y a jamais trop de soucis.
Oui, chacun respecte quand même les normes de sécurité. Je pense notamment à des compétitions qui se déroulent, par exemple, au Spoutnik. Chacun reste quand même à sa place, quoi.
Franchement, je crois que pour vous dire, c'est quelque chose à laquelle je n'ai jamais pensé.
Ouais.
Donc, j'imagine que c'est induit un petit peu dans notre pratique à nous.
Bien sûr. Est-ce qu'il y a des écoles, des collèges qui viennent s'initier à cette pratique de ce sport dans vos établissements ?
Alors, à ma connaissance, pas encore.
Non, pas
en
encore.
Revanche, si vous avez un contact à la mairie du 13e, je vais vous parler de quelque chose.
Ah oui, moi j'en ai.
D'une, je pratique les fléchettes, et de deux, en Angleterre, en fait, et je l'ai moi-même pratiqué avec mes neveux d'ailleurs, il y a une association qui en fait se déplace d'école en école avec des joueurs très connus de fléchettes, pour une raison très simple, c'est qu'en fait, ils ont découvert qu'il était beaucoup plus facile pour certains élèves d'apprendre à compter avec la cible.
Ah oui, d'accord.
Et en fait, moi je trouve ça très très juste et c'est beaucoup plus ludique. Et en Angleterre, ça fonctionne très bien.
Mm-hmm.
Donc je suis complètement pour, parce qu'au final, je reviens en maths, hein, mais quand vous êtes sur une cible de fléchette, vous faites des additions, vous faites des multiplications, vous faites des soustractions. Donc c'est quand même relativement complet et je trouve que c'est assez chouette pour les élèves.
Bah écoutez, on connaît bien les gens de la mairie du 13e au niveau sport. Ils viendront au mois de janvier pour présenter leurs vœux et on aura l'occasion de vous mettre en contact avec eux.
Hein, si bah écoutez, effectivement... avec plaisir.
Bah oui. Et pour des œuvres caritatives, par exemple type Téléthon, il y a des soirées organisées ?
Alors, pas en France. Après, mais en fait, il faut vraiment se rendre compte que la Fédération internationale de fléchettes développe ce sport à merveille dans beaucoup de pays et même de pays émergents. Cette année, ils ont fait des tournois, un tournoi notamment en Pologne où ils ont été sold out, un peu comme ils ont vendu 30 000 billets. C'était incroyable. Et je pense que la France va très vite être dans leur giron. Mais aujourd'hui, je pense qu'on en est à un moment du sport où on en est pas au début, parce qu'on le pratique depuis des dizaines d'années en France avec des gens qui s'investissent beaucoup. Mais je pense que tout ce qui se passe autour aujourd'hui va permettre de se développer. Donc on n'est pas encore à être là au Téléthon, mais par exemple la Fédération internationale vend des cibles aux enchères ou des maillots de joueurs aux enchères, etc., pour pouvoir reverser ça à des œuvres caritatives. En fait, je pense que ce dont on ne se rend pas compte en France notamment, c'est que ces gars-là aujourd'hui, les meilleurs joueurs du monde, notamment dans les pays anglo-saxons, mais pas que, sont des stars. Aujourd'hui, il faut réaliser que, par exemple, je peux vous dire qu'en début d'année, il y a eu un tournoi au Madison Square Garden de New York, là où Mike Tyson faisait ses combats de boxe. Donc,
ouais,
c'est quand même pas... Et c'était plein. Donc voilà, c'est quelque chose qui prend de la dimension.
Oui, oui. Justement, il y a une tenue stricte, réglementaire, au niveau des fléchettes, dans les compétitions.
Alors, il y a eu une tenue stricte par le passé, notamment où il fallait un pantalon noir et des chaussures noires, mais pas dans les petits matchs de club. Hein. Nous, on vient un petit peu comme on veut. Mais aujourd'hui, en fait, vous allez avoir un maillot. Nous, au Sputnik, on a un maillot, tout le monde a un maillot, et la plupart des joueurs professionnels ont un maillot avec leur nom dans le dos, etc. Ouais.
Quelle couleur ? Quelle couleur ?
Nous, on est sobre, en noir, nous.
En noir, avec, tout noir, d'accord.
Avec un joli logo, on vous donnera un t-shirt avec plaisir. mais voilà, c'est globalement. Après, moi, mon prérequis, c'est d'être à l'aise, parce que vous avez besoin d'avoir une liberté de bras qui est assez importante. Donc parfois, quand je vois des collègues venir en after-work faire une partie avec une chemise bien serrée, je leur dis, les gars, mettez-vous torse nu, c'est quand même, vous aurez plus de chance.
Ah oui, on peut jouer torse nu ou alors même en short, si on veut.
Alors là, après, ils auront affaire à Stéphane, Freddy, Goran et toute l'équipe du Sputnik. Ça ne me regarde pas après.
D'accord, très bien. Écoutez, c'est bien, c'est bien. Donc, ceux qui veulent venir vous rejoindre, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent comme ça au Sputnik et puis, voilà, si ça les intéresse, Stéphane les prend.
Exactement, c'est un jeu et un sport social. C'est né dans un pub en Angleterre, et même si ils tendent à se professionnaliser, c'est quelque chose qui est c'est un jeu de social. Voilà, donc il faut venir discuter on accueille tous les gens qui sont sympas.
Ouais. Et puis il ne peut se jouer que en indoor. Hein. Il peut pas jouer en plein air, ce sport.
Bon, après, il y a plein de gens qui ont une petite cible à la campagne, qui mettent ça sur un arbre l'été, hein, mais juste pour le matériel, c'est pas forcément très bon, mais après, je ne juge personne. Et puis, en l'occurrence, à Paris, je peux pas jouer dehors, donc voilà.
Très bien. Bah, écoutez, merci. Sinon, les séances d'entraînement, il en faut combien, en général, quand on débute? Est-ce qu'il y a des personnes qu'on arrive à voir dès le départ qui seront plus douées que les autres?
Oui, je pense qu'il y a des gens qui visent mieux que d'autres. Hein.
Le feeling.
Bah, il y a le feeling, et généralement c'est aussi une question d'œil et de dosage. Si vous êtes vraiment catastrophique à la pétanque et au bowling, il n'y a aucune raison que vous soyez fort en fléchette. Mais après, parfois on peut avoir des bonnes surprises. Et l'entraînement, en tout cas quand on commence, c'est d'abord la régularité, c'est-à-dire de venir à son petit bar ou d'aller jouer avec ses copains une fois par semaine. Assez vite, on se rend compte qu'on progresse. C'est ça. Et en fait, c'est d'abord prendre du plaisir, et quand on prend du plaisir, on a envie de rejouer. Et c'est comme ça qu'on progresse.
Oui, parce que souvent, on faisait un parallèle avec le golf. Hein, les golfeurs disent plus on joue, plus on progresse. Hein.
Bah, c'est exactement ça aux fléchettes, jusqu'à un certain point. En fait, c'est pareil dans beaucoup de sports, mais pour atteindre le niveau intermédiaire, je dirais, vous progressez très vite, et puis après, pour atteindre le niveau au-dessus, c'est un petit peu plus facétieux, je dirais.
Très bien. Swan, en tout cas, merci. Ça a été un plaisir. On va vous libérer parce que vous avez une émission de télé. Bon, juste un petit mot sur le foot quand même. Ils en sont où, l'équipe de Belgique, en vue de l'Euro là?
Un peu moins bien qu'avant. Mais pour ma part, je reste un fervent supporter de l'équipe de France, donc ça me dérange pas.
D'accord. Bah écoutez, quand on fera des émissions sur l'Euro de foot, vous venez nous voir, d'accord?
Hein, bah, il n'y a pas de problème. Moi, je suis en train de le commenter en Allemagne, mais vous pourrez me passer un coup de fil là-bas, si vous voulez.
Ah, bah, il y aura aucun problème, hein, puisqu'on avait fait des émissions spéciales sur le mondial l'année dernière.
Il n'y a pas de souci. Vous avez mon numéro et je serai ravi de parler de foot avec vous.
Et puis, venez nous voir aussi de temps en temps, si vous, un jour comme ça, venez assister à une émission, si vous venez dans le coin. Voilà.
Voilà. Ok, avec plaisir, merci de nous avoir accueillis et merci d'avoir parlé de notre sport, c'est super.
De rien, merci. Et puis cette émission, on pourra naturellement la retrouver en podcast. Merci Swan.
Merci beaucoup, merci, au revoir.
Voilà, donc on termine. Laura, ça t'a plu?
Oui, ça m'a intrigué.
Tu vas pas aller faire un tour de fléchette à la butte aux cailles, là, hein?
Pourquoi pas?
C'est pas très loin. Voilà, allez, chemise She Can Love You, c'est le titre, et puis ensuite on va avoir le journal des sports.
I was at the club, saw who you were with too. When I saw you last night, I could easily see she was holding you so tight, 'cause she knows you want me. Oh no, but she can't love you. She can't love you like I can.
Donc cette émission, bah, vous pourrez la réécouter en podcast. Hein. Toutes les émissions aussi, depuis le début de cette saison, vous pouvez les réécouter. Puis en plus, ce sont des émissions qui sont régulièrement rediffusées tout au long de la semaine. Alors, Laura, on connaît les vainqueurs de la Transat Jacques Vabre.
Exactement. Oui. Et ils sont français, sont oui. les navigateurs, pardon. Oui. Armel Lecléac et Sébastien Josse, à la barre du Maxi Banque Populaire, ils ont remporté hier la 16e édition de la Transat Jacques Vabre à Fort-de-France à Fort-de-France en Martinique. Ils sont partis du Havre, ils sont arrivés après 14 jours, 10 heures, 14 minutes et 50 secondes précisément.
C'est fou quand même, on va de plus en plus vite. Hein.
Exactement. Ouais. Ils succèdent au Maxi Edmond de Rothschild, vainqueur en 2021. Puis c'est une belle journée pour l'équipe Ducati. Le Grand Prix de Malaisie a été remporté par l'Italien Enea Bastianini. Son coéquipier Francesco Bagnaia arrive en troisième position juste derrière Georges Martin de l'équipe de Pramac. Côté français, Fabien Quartararo, équipe Yamaha, arrive en cinquième place. Ce week-end, sixième journée du top 14 de rugby, le Stade français a joué samedi contre l'équipe de Lyon et remporte le match de peu, 36 à 32.
Oh, notre ami Julien va être content. Celui qu'on avait comme consultant sur le rugby, il va être content, Julien.
Et lui, il doit être content. Voilà. Le Racing 92, quant à lui, s'incline face à Toulon, 26 à 31. Jusqu'alors deuxième, l'équipe francilienne descend à la troisième place avec 19 points, juste derrière l'équipe de Pau et le Stade français premier avec 22 points. Le Betclic Basket continue. Lors de cette 11e journée de compétition, l'équipe de Paris s'impose 77-70 face à l'équipe de Cholet, Nanterre et Boulogne-Levallois, échoue 82-91 et 72-74 face à Monaco et Gravelines-Dunkerque. Pour le classement, pas de changement pour l'instant. Monaco conserve sa première place, suivie de près par Paris, Nanterre toujours à la 7e position. Et Boulogne-Levallois ferme la marche avec qu'un seul match remporté depuis le début du tournoi.
Oui, tout va vraiment bien pour ce club. Hein. Paris, là, ils sont tout près d'ici, là, ils jouent à Carpentier. Tout va bien, c'est une super belle saison pour eux. Hein.
On espère que ça va continuer. Ouais, ouais. Côté handball, les clubs du PSG, Créteil et Ivry s'imposent et remportent leurs matchs 40-32, 36-33 et 28-24 face à Dijon, Cesson, Rennes et Nîmes. Le PSG et Montpellier sont toujours en pole position avec 18 points. Ivry remonte dans le classement et se situe à la 14e place, juste derrière Créteil. Pour la Ligue Butagaz Énergie, Paris 92, qui remporte son match face à Dijon 35-26, se situe à la 4e position avec 24 points, derrière l'équipe de Nantes, Brest et Metz. Et 5e journée pour le Marmara Spike League, l'équipe de Tourcoing devance les équipes de Nantes, Rezé et Chaumont. L'équipe de Paris qui gagne son match samedi face à 7-3-2 perd 2 places et se positionne en 6e position avec 8 points. Juste derrière le Plessis Robinson qui s'impose 3-0 face à Saint-Nazaire. Côté Ligue A, pour les féminines, l'équipe de Levallois Paris remporte son match 3-2 face à Mulhouse et confirme sa première place avec 18 points, suivi de près justement par Mulhouse et Vendeuvre avec 15 points.
Ah bah ça va beaucoup mieux pour les féminines de Levallois en volley que pour les basketteurs. Hein. Puis pour le Paris volley, bah, ils sont en milieu de tableau, ils ne jouent pas très loin non plus, ils jouent à Charletti, donc allez les encourager. Bah, voilà, alors Benoît, d'abord, qu'est-ce que vous aimez comme sport en dehors du MMA? C'est quoi votre sport? Vous avez fait toujours des arts martiaux?
Non, pas toujours. Avant, je faisais du basket. J'aime beaucoup le basket.
Paris Basket va très bien. Hein.
C'est ça. Bah là, j'ai bien vu ça. Après, moi, je soutiens plutôt d'autres équipes que Paris. Mais je reste timide. Je me réjouis un petit peu de leur victoire.
Donc le basket après.
Et le basket et football pas mal également.
Bien sûr.
Je suis un grand supporter de l'équipe de Liverpool. Donc ça c'est plutôt mon ma
Nous
famille.
Ne marcherons jamais seuls.
Voilà, exactement.
Bah faut venir un jour parler aussi de
carrément
foot,
carrément
après hein.
Ouais. Carrément aucun problème là-dessus.
Oui. Alors le MMA c'est arrivé comment?
Ben du coup ma rencontre avec le MMA tout simplement parce que je faisais des sports de combat avant, notamment la boxe thaï et également de la boxe anglaise. Je regardais beaucoup également de catch et en termes de divertissement, je cherchais un peu à me renouveler et je suis tombé sur le MMA. MMA notamment aux États-Unis avec l'UFC. C'est une organisation, c'est même la plus grande organisation de MMA au monde actuellement. Et du coup, c'est par le biais des combats que j'ai pu observer sur Internet, c'est là que je suis tombé amoureux de ce nouveau sport.
Oui, alors justement, on parlait de l'essor des fléchettes qu'on voit à la télé. Le MMA maintenant, il a véritablement décollé quoi. Alors, on en parle presque plus que la vieille boxe traditionnelle.
Exactement.
Qui nous a fait rêver pourtant dans.
Mais
dans
totalement,
le passé, hein.
Ouais. totalement. Là, le MMA concrètement, c'est un sport qui prend de plus en plus de l'ampleur mondialement, mais pas mal en France.
Ouais.
Et c'est très présent, notamment on le voit notamment sur les réseaux sociaux. Où il y a beaucoup de contenu MMA qui est repartagé, de résultats sportifs du MMA qui sont repartagés. En France, en l'occurrence, on en parle énormément parce qu'on a pas mal de combattants français qui font du MMA au niveau professionnel et même à l'international. Et en plus de ça, qui ont de très très bons résultats.
Cette vague mondiale, hein, on sait que ça a été très très controversé, très décrié. On a fini par le rendre sport officiel. Hein,
tout à fait.
Il y avait... Pourquoi cette vague? Pourquoi d'un coup, bon, des sports comme la boxe, on en parle un peu moins. D'autres sports qui étaient pourtant aussi assez connus au niveau art martial. Pourquoi maintenant le MMA prend pratiquement le dessus sur tous ces sports? Je parle médiatiquement.
Médiatiquement, je pense qu'en fait, c'est surtout en raison des personnalités qu'il y a autour de ce sport.
Ouais.
On a vraiment des figures assez emblématiques aujourd'hui. On pense surtout à Conor McGregor.
Ouais. Cyril Gane.
Exactement. On pense... Je viendrai sur les personnalités françaises, d'abord, on pourrait penser également à Khabib Nurmagomedov. Il y a eu également Georges Saint-Pierre. c'est des personnalités qui marquent et qui en réalité sont des personnalités également très vendeurs. Oui. Et donc du coup, ben c'est très facile de faire toute une publicité autour de ces personnages. Mm-hmm. Et je pense que c'est la force même du MMA, c'est d'avoir justement des combattants qui arrivent à capter la lumière sur eux. Et du coup, ce qui fait qu'on s'y intéresse de plus en plus. Moi, quand je regarde autour de moi, au niveau de mes proches, certaines personnes se mettent à parler, à me citer des noms de combattants sans regarder du MMA. Ouais. Et c'est ça qui est impressionnant. Cyril Gane,
par exemple, qu'on connaît en France maintenant.
Exactement. Voilà. Cyril Gane, c'est exactement ça.
Mais ils viennent d'où, tous ces combattants de MMA? Quel était leur sport d'origine?
C'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils viennent un peu de partout.
Ah ouais.
Et ça, c'est la particularité du MMA, c'est que c'est MMA pour Mixed Martial Arts. En français, arts martiaux mixtes.
Il le dit mieux que nous.
J'ai essayé. Je me suis entraîné juste avant. Ouais. Et du coup, en fait, c'est des gens durant leur carrière ou durant plutôt dans leur évolution de la pratique sportive, ont pratiqué différents sports de combat. Il y a toujours un sport de prédilection, mais après qu'ils ont su compléter avec d'autres disciplines, et c'est ce qui leur permet aujourd'hui de faire du MMA. Donc concrètement, les combattants de MMA, vous pouvez les croiser dans tous les différents sports de combat. Ça peut être de la boxe anglaise, de la Muay Thai, mais également des sports qui se font au sol comme la lutte, le jiu-jitsu ou encore le grappling. Donc c'est des sportifs assez complets qui touchent à différentes disciplines, et c'est ces combinaisons de ces disciplines-là qui le mettent en pratique.
Oui, parce qu'on voit maintenant que c'est énorme, il y a des succès partout, donc Bercy, c'est complet partout. Quoi.
C'est complet c'est... partout. Ah, ouais, ouais, ouais. Concrètement, il y a une vague française, il y a une vague de MMA en France plutôt, c'est comme ça que je devrais le formuler. Et ça prend une telle ampleur. Récemment, on a eu un événement qui était assez incroyable. C'était notamment le combat de Cédric Doumbé face à Jordan Zebo. J'espère que je prononce bien son nom de famille. Mm-hmm. Et c'est un combat qui, clairement, a galvanisé énormément de personnes. Il y a eu une aura incroyable. Parce que c'est un sport qui attire, mais parce qu'aussi, il y a des personnalités emblématiques. Comme le cas de Cédric Doumbé, qui lui, tu me posais la question juste avant d'où viennent ces sportifs. Cédric Doumbé, lui, c'était un combattant, si je ne dis pas de bêtises, de kickboxing. Il a été notamment titré à plusieurs reprises au Glory. Glory, qui est l'une des plus grandes organisations de kickboxing au monde. Et du coup, il a effectué sa transition, j'ai envie de dire, au MMA. Et sa transition, aujourd'hui, amène une aura supplémentaire sur le MMA en France, et du coup les gens s'y intéressent davantage. Donc tout ça, je pense que ça contribue à rendre ce sport encore plus important actuellement.
Alors, les règles de ce sport, c'est quoi, et qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent qu'il y a beaucoup de violence dans ce sport?
Aïe, aïe, aïe.
Je
vais y venir.
Ouais,
je vais y venir.
Non, justement,
au niveau des règles, en réalité, c'est des règles qui ne changent pas des sports de combat traditionnels, ouais, comme la boxe, etc., à la différence que...
Les rounds, ça dure en combien de temps?
Les rounds, concrètement, c'est des rounds de 5 minutes. Il y en a maximum 3, sauf lors des gros combats, c'est-à-dire les main events.
À fond.
Exactement, les main events, où là, on peut aller jusqu'à 5 rounds.
Voilà.
Au niveau des règles, c'est très simple. Le but, c'est de mettre KO son adversaire.
Ou de gagner au point,
ouais, exactement. Parce qu'il y a également un jury, comme en boxe anglaise, comme en boxe thaï et dans les autres disciplines de combat.
Il y a beaucoup de contestations, parce qu'en boxe, ça a un peu tué ce sport-là aussi. Souvent, il y a eu des contestations.
Il y a des contestations en MMA, mais en réalité, il y en a moins. Après, vous savez, c'est... la décision des juges, il y a le combat, il y a le show du combat, est-ce que nous on perçoit du combat, et est-ce que les juges eux perçoivent, et très souvent il y a toujours une certaine dissonance, mais en général il n'y a pas trop de problèmes au niveau de la contestation.
D'accord, donc on l'a dit, 3 rounds de 5 minutes.
C'est ça.
Ouais, ouais. Et on tape poing, pied.
Exactement. Donc du coup, c'est des coups où on peut concrètement, c'est principalement c'est les poings, les pieds, les coudes également, mais c'est réglementé. Le genou, c'est réglementé, et des prises de soumission comme des clés de bras, des clés de cheville, etc.
Oui, donc c'est un mélange de tout, quoi.
C'est vraiment un mélange de tout. La grosse différence, c'est que ce n'est pas dans un ring, mais c'est plutôt dans une cage.
Oui, après, c'est bizarre. Pourquoi?
Alors pourquoi la cage? Ça, figurez-vous que j'ai encore cherché, j'y ai pas trouvé.
Parce que ça rappelle un peu les arènes, les vues.
Exactement, exactement. Ouais. Ça rappelle un peu ce côté un peu gladiateur. Ça a été d'ailleurs un élément que les gens ont beaucoup reproché au MMA, ouais. à cette pratique. En réalité, ça n'a pas de réelle importance si ce n'est rajouter, j'ai envie de dire, un style bien particulier à ce sport. Mmh. Après, c'est vrai que certaines personnes peuvent juger que ça comme étant négatif, mais en général, pour les fans qui sont de plus en plus nombreux, ça ne pose pas de problème.
Mmh. Mais... Et il y a des catégories de poids, comme en boxe.
Tout à fait, il y a
combien de catégories de poids?
Alors, il y en a pas mal, je me souviens
50,
plus.
50, 60 kilos, ça commence là jusqu'à 120, 130?
Exactement, ça commence à partir de là en fait. C'est, mmh. On a des combattants très légers. Et on va jusqu'au très très lourd. Mmh. Par exemple, Cyril Gane, combattant français, lui, il est dans la catégorie la plus lourde, des poids lourds. Et il me semble qu'on n'a pas de... Par exemple, à l'UFC, il me semble pas qu'on ait des combattants en léger, si je dis pas de bêtises, mais ce sera à vérifier.
D'accord, ok. Alors ensuite, donc, démocratisation de ce sport, qui est complètement autorisé maintenant.
Exactement,
dit, hein.
C'est vrai,
dit, hein.
il est complètement ouais. autorisé. Ça n'a pas été si simple que ça. Ouais. Faut savoir qu'il y a eu beaucoup de, il y a eu, bah déjà il a été totalement légalisé en 2020.
Oui, c'est pas si vieux que ça.
C'est
hein.
très très c'est tout jeune en fait, c'est tout frais. Mm-hmm. Et on a quand même énormément de combattants aujourd'hui qui combattent à un haut niveau et quand même combattu pour des ceintures. Faut le rappeler, Cyril Gane a reçu la ceinture intérimaire donc de l'UFC, plus grande organisation de MMA au monde, avec les combattants les combattants les plus titrés, les plus ceux qui ont le meilleur niveau quasiment ouais. au monde. Mm-hmm. Donc du coup, c'est pas rien. Et encore récemment, on y reviendra après, mais on a eu un combattant français qui s'est très bien, qui a une belle performance il y a peu. Donc voilà, c'est un sport qui a été autorisé très jeune très récemment en France, ouais. et pourtant qui arrive à galvaniser et qui arrive à avoir beaucoup de combattants, des combattants qui combattent à un niveau professionnel incroyable, même dans le plus haut niveau mondial. Je pense qu'on peut quand même se réjouir.
Et on gagne très bien sa vie, comme les grands champions de boxe.
Ah, très bonne question. Ouais. Alors, le combat, je dirais, moi personnellement, ouais. je trouve que les combattants MMA sont très mal payés. Ouais. Je parle du haut niveau, mmh. par rapport à l'aura, par rapport à tout ce qu'ils amènent et tout ce qu'ils génèrent autour d'eux.
Oui, parce que on va rappeler, c'est comme en boxe, hein, ce sont les organisateurs qui payent les droits télé. Enfin,
exactement.
Il y a une partie de voilà des recettes qui reviennent à ses compétiteurs.
Exactement, une partie des recettes qui reviennent à ses compétiteurs, mais quand on voit le coût, comment dire, il faut comprendre que ces compétiteurs-là, ils doivent payer tout ce qu'il y a autour mmh. d'eux, c'est-à-dire leur coach, mmh. mais également les assistants des coachs, également ils doivent payer leur camp d'entraînement, les salles où ils s'entraînent, etc. Du coup, leur diététicien, parce que c'est aussi une hygiène de vie pour être combattant, et ça demande de surveiller son alimentation, de ne pas manger n'importe quoi.
Il faut faire le poids, tout ça.
Il faut faire le poids, etc. Donc du coup, tout ça, ça a un coût, ça a un prix, et donc du coup, ben, même si certains combattants peuvent obtenir de très belles sommes après avoir combattu et gagné, bah malheureusement, il y a la réalité qui fait qu'il y a beaucoup de charges à payer. Donc, ils sont moins payés que les boxeurs. Ça reste quand même des salaires assez corrects par rapport à ce qu'ils génèrent. Mais moi, j'estime personnellement qu'ils devraient être payés plus.
Alors, on en voit beaucoup au cinéma du MMA et puis alors, aussi beaucoup sur les différents réseaux sociaux. Hein. Ça, c'est important. C'est un sport qui vit bien
tout
avec son époque.
Tout à fait. Je pense que c'est...
Ben, c'est un peu, force, peut-être.
C'est carrément la force du MMA. Comme tu le dis, c'est que c'est un sport qui est très présent sur les réseaux sociaux, déjà. C'est un sport qui attire beaucoup l'attention des gens. On en parle constamment. Même ceux qui ne s'y connaissent pas du MMA parlent du MMA. On en trouve également dans le cinéma. Bon, il y en a pour ceux qui ne savent pas, mais il y avait notamment le combattant Kamaru Usman qui était l'ancien champion des middleweight, si je ne dis pas de bêtises. Lui a fait une apparition dans le film Black Panther.
Ouais. Nous, c'était Bruce Lee à notre époque.
Exactement. Ouais, ouais, ouais. Donc, il avait fait une apparition dans le film Black Panther. Georges St-Pierre avait fait une apparition, si je ne dis pas de bêtises, dans un autre film Marvel. avec Captain America. Donc c'est des, c'est, ça prend un engouement, on le retrouve au cinéma. Donc c'est des combattants qui clairement, c'est un sport qui clairement met la lumière sur lui actuellement. Et je pense sincèrement que l'aura qui, que ce sport va avoir va, va ne faire qu'augmenter.
Oui, mais est-ce qu'il y a des professionnels et des amateurs comme en boxe, voire
si, directement, tout à fait.
Ouais, pareil.
Tout à fait. Il y a
oui.
des, ça se fait en amateur, ça se fait en professionnel. Et bah, du coup, c'est ce qui fait que il y a de plus en plus de clubs. Justement aujourd'hui.
Oui, oui, bah, y en a un pas bien loin qu'on a reçu l'année dernière, hein, donc, bah, ouais, qui n'est pas très loin, là, donc
rue ouais, du Chevaleret. Tu m'en avais
donc,
parlé,
ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, et ça peut être un sport olympique finalement.
Ben,
parce que la boxe l'est bien, la boxe amateur.
Bah, en fait, ce qui est assez drôle, c'est que effectivement, ça pourrait être un sport, sport olympique, mais on a eu des champions olympiques oui. en MMA, c'est-à-dire.
Ah.
Et oui, ouais. on a par exemple Henri Cerrudo, qui a été, si je dis pas de bêtises, l'un des champions de la catégorie des poids légers. Même en dessous, je dirais. Ben lui, il a été, on le surnomme Triple C parce qu'il a été trois fois champion et trois champion dans trois catégories différentes, pardon.
Quel
et
sport,
du coup, comment?
Dans quel sport?
Dans le MMA.
MMA. Ouais,
et
ouais, ouais.
avant sa carrière
oui,
en MMA,
ça.
Il
c'est
a été
m'intéresse.
Champion olympique
oui, mais
en lutte.
Ah c'est ça, en lutte.
Ouais.
Ah, oui. Ouais, ouais.
Donc voilà. Donc effectivement, ce serait une bonne question de savoir si. Si on pourrait ouvrir une catégorie MMA aux Jeux Olympiques. Ce serait super intéressant d'ailleurs.
Voilà. Alors, sinon, bah, l'actu, c'est quoi actuellement au mois de novembre là, l'actu globale de ce sport.
Au mois de novembre, donc, ouais. du coup, en bon patriote français, on peut que se réjouir ouais. puisqu'on a eu la victoire incroyable de Benoît Saint-Denis.
Oui. Ah oui.
Du coup, qui est un combattant français qui est chez les poids légers, je ne dis pas de bêtises, et qui a gagné au premier round. Premier round, son combat à l'UFC récemment. Et si je dis pas de bêtises, c'était samedi dernier. Mm-hmm. Oui, samedi dernier, ouais. Et du coup, il a effectué une belle victoire. Il a mis son adversaire KO au premier round. Un kick en pleine tête. Et donc du coup on peut être que content pour lui. On se réjouit de sa victoire. On espère qu'il ira encore plus loin. Mmh. Et je pense que c'est une actualité auquel on peut vraiment se réjouir. On est également aussi on peut également parler d'un possible combat qui pourra avoir lieu entre Cédric Doumbé et Baki. Mmh. Baki qui est le jeune prodige du MMA en France.
Oui, il y a très bon boxeur français. Hein.
Et parle beaucoup de lui actuellement ouais. et à Cédric Doumbé qui est quand même. Un grand champion du Glory actuellement qui fait beaucoup parler de lui pour sa dernière victoire, donc apparemment il y a une possibilité de combat entre les deux. On espère que ça va se faire, ça va faire du bon au MMA français et je pense que ça va beaucoup intéresser les gens.
Alors les retransmissions, c'est sur quelle chaîne si on veut voir MMA? Je crois qu'il y a une chaîne spécialisée dans les sports de combat.
Alors oui, ben pour
Arnaud Romera qui en était le patron ouais, de France Télévisions.
Ben, déjà
ouais.
pour l'instant c'est RMC Sport qui
ouais,
en
RMC
parle
Sport.
Beaucoup.
Ouais,
donc si on veut regarder du MMA, faudra aller chez RMC.
D'accord.
Faudra se lever tôt.
Ah oui.
Parce que les émissions, ben écoutez, vu que c'est aux États-Unis, il y a le décalage horaire,
oui,
donc
oui.
du coup ça commence souvent à 4h du matin, donc faut se lever. Mais c'est principalement sur cette chaîne là qu'il faut regarder.
D'accord, très bien. Et puis toi, tu viendras nous en informer. Donc, je l'ai dit, tous les deuxièmes lundis du mois, tu
c'est
nous
ça,
donneras
c'est ça.
L'actu MMA.
Exactement.
Sans problème. Hein.
Et de l'actu MMA, également des thématiques autour
oui.
du MMA,
ouais.
toujours.
La vie des clubs.
Comment?
La vie des clubs.
C'est ça.
Et puis si tu rencontres des grands champions, t'hésites.
Clairement, on espère qu'ils viendront ici.
Ou aller faire
qu'ils viendront coup, ici et s'exprimer avec nous.
Très bien. Laura, ça t'aspire un commentaire?
Bah, je connais rapidement
ouais,
le
trop.
MMA, mais
ouais.
Mais ouais, ça m'intéresserait de regarder. J'ai jamais de regarder de match, mais pourquoi pas.
Ouais. Bah, quand
j'entends beaucoup parler autour de moi, donc ouais. Ça m'intrigue.
Allez, la deuxième pause musicale, Coldplay Paradise, et ensuite c'est la rubrique foot avec notre ami Stéphane Desenclos.
she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, so she ran away in her sleep. Dream of para, para, paradise, para. Time she closed her eyes. When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, and the bullets catching her teeth. Life goes on, it gets so heavy, the wheel breaks the butterfly, every tear a waterfall, in the night, the stormy night, she closed her eyes, in the night, the stormy night, away she flies.
Allez, dernière partie de cette émission Mon Paris Sport, naturellement la partie foot hein, qu'on fera avec notre ami Stéphane Dedenclos, et ensuite on va la prolonger avec au bout du foot avec mon ami Malik. Bonsoir Malik.
Bonsoir Philippe, bonsoir Laura, bonsoir à tout le monde.
Alors quel est le programme ce soir?
Ce soir on va revenir justement sur les performances des clubs français au niveau donc de la Ligue des Champions, de l'Europa League et de la Conference League. On va se poser la question de savoir si le PSG justement a manqué de caractère face à l'AC Milan. Également, on va se poser une question au niveau du RC Lens. Est-ce que le RC Lens a été tout simplement naïf face au PSV Eindhoven? On va également, tiens, évoquer l'équipe de France avec Zahir Emery qui a été appelé par Didier Deschamps. Est-ce que on se rend compte que ce joueur, il est très bon au niveau du Paris Saint-Germain, mais est-ce qu'il va apporter une plus-value au sein de l'équipe nationale de France? On se pose la question. En première ligue, tiens, Manchester United. C'est vrai que ce week-end, ils ont gagné 1-0, mais ça ne va pas du tout au niveau des résultats. Donc, on va se poser la question de savoir où est passé le Manchester United de Sir Alex Ferguson. Dans la chronique, quel choix? Pour quel résultat? On a trois questions aujourd'hui. Hein. L'Olympique de Marseille est à 11 points du podium de Ligue 1. Est-ce que c'est une source d'inquiétude légitime? Là aussi, les consultants d'Au bout du foot vont tenter de répondre à cette interrogation. La Gazette non titulaire hier, Lyon qui gagne son premier match de la saison. On va se poser la question au niveau des enseignements qu'on pourrait en tirer justement avec cette première victoire. Paris Saint-Germain toujours, Gonzalo Ramos, Colomouani. Un coup l'un est titulaire, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Il n'y a pas vraiment d'établissement de fait parmi ces deux joueurs au niveau du PSG. Là aussi on va se poser la question, est-ce que finalement c'est une bonne chose pour l'attaque parisienne? Au bout du foot, c'est tout de suite hein, après Montparis Sport dans la foulée. Et on enchaîne 20h30. Tout de suite à 20h30.
Voilà, voilà, tout sur le foot. Bonsoir Stéphane Dezenclos.
Bonsoir, bonsoir à
toutes et à tous. Oui, alors Stéphane donc, qui participera aussi naturellement au téléphone ce soir donc, à l'émission avec notre ami Malik. Stéphane, auparavant on va revenir sur les résultats de Coupe d'Europe donc, de cette semaine. Bilan mitigé, hein, zéro pointé pour la Ligue des Champions pour nos clubs français. Et puis bah, ça s'est plutôt mieux passé au niveau donc, de la Ligue Europa et Europa League. Ouais, oui. Donc Milan AC qui bat le Paris Saint-Germain 2-1.
Ouais, tout à fait. Bah, bilan mitigé, moi je dirais bon bilan dehors du PSG, quoi.
Ah, Lens battu aussi.
On n'est pas habitué à ça maintenant que Lens perde 1-0 à Eindhoven. On va dire, bon, bah, c'est un peu dans la logique des choses, même si on aurait pu espérer mieux. Et après, ouais, les autres, c'est des bons résultats, quoi. C'est des victoires pour Rennes, des victoires pour Toulouse. Et un miracle, quand même, encore, hein, on avait le droit. On a eu droit à Lens Arsenal en début de saison. Là maintenant, Toulouse Liverpool, c'est encore pire. C'est, encore
c'est
mieux,
pour ça
quoi.
Qu'on aime le foot, Stéphane. C'est ces surprises-là.
Ouais, voilà. Donc, ah. C'est pour ça que moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi quand tu dis mitigé. Je veux dire, le cas PSG, qui aurait jamais dû perdre à Milan, quoi, sur le papier. Oui. Je veux dire, je parle pas du match, hein. Je parle sur le papier ou dans les faits et tout. Quoi, alors, on l'avait dit avant la semaine dernière, un match nul, c'était même un peu une contre-performance. Hein. Donc, en dehors du PSG qui s'est raté, tout le reste, c'est plutôt au-dessus de la moyenne largement, je pense.
Alors, je voudrais qu'on revienne justement sur d'abord le premier match, hein, la défaite du Paris Saint-Germain à Milan AC 2-1. Bon, victoire logique, surtout sur la deuxième mi-temps des Italiens. C'est la deuxième fois que le Paris Saint-Germain perd deux matchs en phase de poule.
Ouais, tout à fait. Bon, logique, c'est vrai que bon.
Sur la deuxième mi-temps, hein.
Ouais. C'est vrai que c'est logique, peut-être sur la deuxième mi-temps. Bon, un match, d'abord, je vais te dire qu'un match est deux mi-temps. Ensuite, je pense que c'est, bon, ça fait plaisir toujours à tout le monde. C'est de bon ton de tirer sur le Paris Saint-Germain. Maintenant, s'il n'y a pas eu un poteau, une barre ou quelque chose comme ça dans le match, il y a eu quelques grosses occasions. Il n'y en a pas eu forcément énormément non plus du côté du Milan.
Plus qu'au match aller, en tout cas. Plus qu'au match aller.
L'envie, le mental, qui peut un peu inquiéter pour le Paris Saint-Germain, c'est ça, quoi.
Alors,
c'est plus le mental, quoi.
Alors, Stéphane, c'est un drôle de groupe, quand même, hein, parce que la vérité d'un jour, c'est pas celle du lendemain. On voit une équipe comme Dortmund, qui avait très mal commencé, qui est finalement en tête de cette poule avec 7 points. Le PSG, avec malgré deux défaites, reste encore en course pour la qualification en étant deuxième avec 6 points. Le Milan AC, qui était très loin, donc dès le départ, ils recollent. Ils sont troisième avec 5 points. Et quatrième, les Anglais de Newcastle, 4 points. Ça veut dire que tout est possible. Les quatre équipes peuvent encore se qualifier.
Ouais, tout à fait. Bah, c'est ce qu'on disait, ce qu'on avait dit et ce qu'on dit la majorité des observateurs au moment du tirage au sort, c'est-à-dire que c'est le groupe de la mort. Oui. Mais dans le groupe de la mort, il n'y a pas que des inconvénients, il y a aussi un avantage, c'est que tout le monde peut battre tout le monde.
Et oui.
C'est-à-dire que la prochaine journée, c'est donc PSG, Newcastle et Dortmund, Milan AC. Dans ces deux matchs-là, tout peut arriver, quoi.
Oui.
Tout peut arriver, quoi. Donc, c'est pas. Donc c'est pour ça que c'est encore possible pour tout le monde, que tout est possible, quoi. C'est-à-dire que dans ces matchs-là, tout peut arriver. Et encore une fois, du coup, le Paris Saint-Germain pourrait même être qualifié même une journée avant la fin, comme il pourrait finalement, au bout du compte, au bout de la dernière journée, ne pas jouer aucune compétition, quoi. Donc c'est vrai que c'est complètement fou. Puis quelque part, c'est un peu c'est plutôt bien, quoi. Ça permet des fois de ramener un peu de se rattraper un petit peu, c'est-à-dire que t'as Dortmund Milan c'est Milan, c'est Dortmund-Milan le match. Bah bien malin qui pourra dire que qui va passer quoi. Alors que si Dortmund gagne et que si le Milan perd et ben et puis que Dortmund et
Paris tout est possible. Gagne, et ben, Milan ouais. Alors effectivement, ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour Lens, hein, qui semble peut-être avoir atteint son maximum. Hein. Lens battu à Eindhoven 1-0, logiquement battu aussi. Hein. Donc Arsenal en tête avec 9 points, devant le PSV et Lens qui restent tous les deux à égalité à 5 points, 4e Séville 2 points, mais il y a un gros déplacement de Lens à Arsenal dans 15 jours.
Voilà, il y a un gros déplacement, mais d'un autre côté, tu as un gros déplacement de Lens à Arsenal, effectivement. Mais tu as aussi, avant la fin, dans les deux dernières journées d'après, je crois que c'est Arsenal qui va
Lens qui reçoit Séville. Lens qui reçoit
voilà,
Séville pour le dernier match.
Et Arsenal qui va peser. Donc, si cette journée-là, le problème, c'est que oui, cette défaite, elle fait mal, quoi. Parce que si cette journée-là, la logique l'emporte. C'est-à-dire que Lens s'incline à Arsenal et le PSV bat. Alors, c'est à Séville, je crois, le match. Non, c'est le dernier. C'est à Séville, le prochain match ou à Eindhoven.
J'avoue, je n'ai pas vérifié. Le dernier match, ouais. C'est Lens-Séville, ça, oui, c'est sûr. Lens,
ouais, donc, ça doit être, à mon avis, ouais. C'est à Séville, le match. Là. Si Séville bat Eindhoven et que Lens perd à Arsenal, bah, tout va jouer sur la dernière journée, quoi. Avec une victoire de ou peut-être même un nul de Lens pourrait même presque suffire quoi. Donc c'est pareil aussi quoi. Tout peut arriver. C'est déjà comme disaient les joueurs après le match. Hein,
Séville est un peu plus loin quand même. Hein. Séville est lâché. Hein. Donc c'est pour eux
oui,
ça beaucoup plus.
Ils ont combien de points Séville ?
Deux.
Pas le
deux seulement
voilà,
deux.
Ils ont deux donc... points et Lens en a cinq non ?
Oui, ça fait plus d'un match quand même. Hein. Faudra un miracle.
Oui, mais si Séville, c'est ce que je te disais.
Oui,
enfin, si Séville gagne contre Eindhoven prochain match, ils auront cinq. Eindhoven aura cinq.
Ouais.
Lens perd à Arsenal, Lens aura cinq.
Ouais.
Donc tu auras Arsenal devant, qualifié d'ailleurs officiellement. Quasiment, je pense, je n'ai pas le classement sous mes yeux.
Ils sont en tête.
Et puis tu auras trois équipes à 5 points. Mmh. Et tu auras les matchs, ça sera PSV Arsenal et Lens Séville. Donc c'est sûr que à ce moment-là, Lens n'aura plus son destin entre ses mains. C'est-à-dire que si le PSV bat Séville, à ce moment-là, ça sera le PSV qui passera. Mais Lens pourra terminer cinquième. C'est chaud, quoi. Ça va être encore des. Il va falloir sortir les calculettes et tout, parce que ça va être super compliqué, quoi.
Bah, tant mieux.
Ouais, voilà.
Donc ça s'est pas très bien passé cette semaine en Ligue des Champions pour nos clubs. Ça s'est beaucoup mieux passé en Ligue Europa et Ligue Europa Conférence. Hein. Marseille est allé gagner face à l'AEK d'Athènes à Athènes 2-0. Marseille est en tête de sa poule avec 8 points. Rennes a battu aussi l'autre équipe grecque de Panathinaikos 3-1. Rennes est aussi en tête de sa poule avec 9 points. Ce sont pourtant quelques équipes qui ont des difficultés en championnat. Et puis Toulouse, on l'a dit, a fait l'exploit. Ils ont battu Liverpool 3-2. Toulouse qui est deuxième, qui peut encore se qualifier avec 7 points à deux longueurs de Liverpool qui mène donc le groupe en tête avec 9 points. Et puis en Ligue Europa Conférence, Lille est allé faire nul à Bratislava 1-1 et Lille est en tête de sa poule avec 8 points. Ça veut dire que toutes les équipes françaises peuvent se qualifier.
Ouais, toutes les équipes peuvent se qualifier. Maintenant, ça va être très...
Toulouse, ça va être difficile quand même.
Ça va être très, voilà, ça va être très compliqué, même pour Marseille. Hein, je dirais aussi pour Marseille, ça va être compliqué, quoi. Hein. Ça va être compliqué pour Marseille. Il faut leur groupe était faible aussi quoi. Ce qui est intéressant pour Marseille, c'est que l'Ajax a perdu sur son terrain par Brighton. C'est le résultat le plus important de la dernière journée quasiment quoi. Parce que ça veut dire que Marseille pourrait presque enfin, faut pas qu'ils perdent chez eux. Un match nul contre, on peut considérer qu'un match nul pratiquement de Marseille contre l'Ajax à domicile va suffire pratiquement
oui,
à la
ouais, voilà. En Ligue Europa, ça risque quand même de se passer un petit peu mieux tout du moins pour ce premier tour. Après, le problème, c'est les matchs à élimination directe. Enfin, ça, c'est un autre problème. Allez, le championnat, 12e journée, on est resté un petit peu sur le même standing que la journée précédente. Hein. Il y a eu 12 buts en 8 matchs, il y a eu 13 pour 9 matchs la semaine passée. Montpellier-Nice 0-0, le PSG qui, grâce à un triplé d'Mbappé, est allé allaient gagner à Reims 3-0. Nouveau 0-0 entre Le Havre et Monaco. Lille accrochée à domicile par Toulouse 1-1. Victoire de Lyon, importante cette victoire de Lyon, qui peut-être sacrifie définitivement Genesio à Rennes, puisque Rennes a été battue 1-0 par Lyon à domicile. Et puis victoire de Lens devant Marseille 1-0 hier. Brest-Strasbourg sera joué donc le 7 décembre à 20h30. Au classement, donc PSG prend enfin la tête au tiers du championnat avec 27 points, devant Nice 2e 26, 3e Monaco 24, 4e Lille et Reims 20, et puis 16e Lorient donc avec 11 points, 17e Clermont 9 points et 18e Lyon 7 points. Mais comme on le disait la semaine dernière, il y a 5 points d'écart seulement entre Lens qui est 16e et Lorient.
Ouais, Lens qui est 6e, qui est 6e.
Ouais, 6e et 16e Lorient, je veux dire, pardon.
De toute façon, déjà, on a plus que 18 clubs, hein, donc déjà, ça, on a à la fois, il faut savoir que cette année, dans la lecture du championnat, on a à la fois 18 clubs et on a à la fois une équipe de plus en Coupe d'Europe. Mm-hmm. Donc ça veut dire que pour l'instant, le 6e est européen, barrage de la Ligue Europa Conférence. Et si on pense qu'un des 6 premiers peut gagner la Coupe de France, on peut presque envisager que le 7e soit aussi européen. Donc ça veut dire qu'on n'est pas très loin maintenant. C'est vrai que
entre Lens et puis Lorient, que 5 points, ça fait même pas de match, quoi.
Mais regardez, c'est un truc de fou, même. C'est quand vous regardez, par exemple, Lyon, le fameux Lyon là, qui a 7 points, se retrouve au moment où on se parle à 8 points du 7e. Donc potentiellement, comme je viens d'expliquer, ou 9 points, 8 points du 7e, avec un match en retard. Oui. Donc tout peut aller finalement très 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 vite, quoi. Mmh. Maintenant, bon, il y a beaucoup d'équipes entre les deux, mais il y a des équipes qui avancent pas bien. Lorient, Clermont, même si ils ont gagné, Strasbourg, ça va mal.
Il y a 3 matchs en retard à jouer dans les prochaines semaines.
Hein. C'est pas forcément lisible non plus, parce que c'est vrai que Lyon pouvait se féliciter de. Il y a beaucoup d'équipes, mais le souci de Lyon, c'est que, et c'est ça, on le savait, hein, c'est dans les analyses, c'est dit, quoi. Le souci de Lyon, c'est que Clermont a gagné, que Metz a gagné, que Montpellier a gagné, que Toulouse n'a pas perdu. Bon, Strasbourg a un match en retard, donc peut-être Strasbourg va savoir. Lorient a perdu, mais Lorient est quand même à 4 points devant. Donc voilà, quoi. Donc ça veut dire que ce que j'ai dit tout à l'heure, là, le nombre de points qui séparent, c'est une chose. Mais imaginez que dans le match à rejouer, l'OM Lyon gagne à Marseille au Vélodrome, il serait à 3 points après tout ce qui a été dit, écrit, les trucs, les catastrophes et tout. Lyon serait à 3 points de Marseille, quoi. Donc ce serait fou, quoi.
Ouais. Stéphane, juste un petit mot avant de passer à la Ligue 2. Pourquoi si peu de buts depuis quelques journées?
Peut-être que c'est
beaucoup de 0-0 quand même, hein.
Ouais, mais c'est peut-être le syndrome, Ligue 1 à 18, quoi, ouais, qui fait que les équipes veulent plus perdre. Il y a de moins en moins d'équipes qui ouvrent le jeu. Et puis bon, ceci dit, quand même, au passage, on peut quand même dire aussi merci au Paris Saint-Germain, quand même, qui sur ces trois derniers matchs a marqué 3 buts par match. Hein. Mm-hmm. Donc les autres, ils marquent pas, mais eux, ils en sont quand même à 3 buts par match sur les 3 derniers matchs. Mm-hmm. Donc heureusement qu'ils sont là, parce que c'est vrai qu'on s'est ennuyé à mourir il y a une semaine. Je l'avais dit, hein, Nice, je crois que c'est 13 buts marqués qui étaient leader avant cette journée-là. Oui. Mm-hmm. Ça fait pas forcément une très bonne pub au football français. Et le peu de buts qu'il y a, le problème de Marseille qui marque plus non plus.
Oui, puis des matchs pas très beaux techniquement en plus. Hein, des purges, quoi.
Des purges. Alors de Lens, on peut plus le comprendre parce que, quoi, par exemple, pour le match d'hier, hein, Lens, ils sont très très mal partis. Et c'est déjà. Qui aurait dit, rappelez-vous, quand on en parlait dans les premières émissions là, au bout du foot, là, on vous aurait dit le soir de la 12e journée, Lens sera 6e de Ligue 1. Oui, je pense qu'il n'y en a pas un de nous qui aurait dit ah oui, absolument. Oui, si, c'est sûr, ils vont revenir aussi vite et tout. Quoi. Mm-hmm. On pensait qu'ils allaient s'en sortir, mais peut-être pas aussi vite. Quoi.
En tout cas, on marque beaucoup plus de buts en Ligue 2, hein, 14e journée. Ça a été un match avec beaucoup de buts, hein, une journée avec beaucoup de buts. Bordeaux a battu Annecy 3-1. Concarneau est allé gagner, ça c'est quand même assez bizarre, à Laval 3-0. Mais il y a eu un 4-4 entre Pau et Angers. Et puis Auxerre qui a battu Saint-Etienne 5-2. Et puis le Paris FC, ça lui réussit hein, d'ouvrir donc au public gratuitement, puisque le Paris FC a battu Bastia 1-0. Donc pour l'instant, Laval reste quand même en tête, mais ça se réduit l'écart. Hein. Laval a 29 points devant Auxerre, devant Angers, pardon, 27 points. Troisième Auxerre, 25 points. Quatrième Grenoble et Saint-Etienne, 24. Le Paris FC, eh ben, on l'a dit, remonte au 12e avec 17 points. Et puis donc pour les quatre derniers clubs concernés par leur par la relégation, on trouve 3 17e avec 13 points, 18e Dunkerque 12 points, 19e Rouen-Quevilly avec 11 points et 20e et dernier donc Valenciennes 9 points. On marque un peu plus hein, en Ligue 2.
Ouais, on marque beaucoup plus et c'est vrai qu'on marque plus. Et puis pour moi, il y a franchement alors là rien du tout d'acté dans ce ce championnat.
Oui.
Il y a peut-être Valenciennes, on va dire, qui présente un profil d'équipe en difficulté, c'est-à-dire qu'ils ont été rachetés, ils ont déjà changé une fois d'entraîneur et ils sont en train de penser à rechanger encore d'entraîneur. J'ai l'impression qu'ils sont un peu partis dans une espèce de spirale dont ils vont avoir beaucoup de mal à se remettre. Mais on a vu par exemple Quevilly-Rouen qui a, je crois, mené deux fois au score à Caen, qui a battu la semaine dernière Rodez. Qui est solide, qui a quand même des choses à proposer, une organisation assez solide. C'est pas l'équipe du gars. Donc donc je vois pas vraiment de ouais. Donc ça va être compliqué. Quoi.
Laval commence à perdre des points, Stéphane. Hein, quelques défaites à domicile. Hein, donc 3-0 devant Concarneau quand même. Et puis il y avait une précédente défaite face à Saint-Étienne à domicile. Commence à mordre un petit peu des points au bout de 14 journées. Hein, mais enfin.
Voilà, bon bah de toute façon une équipe, je pense pas que Laval avait pour ambition de jouer la montée de toute façon. Donc ils ont tellement failli descendre l'année dernière que je pense qu'ils vont jouer le maintien. C'est vrai que là ils étaient sur une très très belle dynamique. Bon là ça, ils sont un peu plus dans le dur, alors voir comment ça va évoluer. J'en sais rien, mais ce qu'on des dernières journées, notamment dimanche, ce week-end là, ce samedi, on peut constater surtout le gros gâchis, quoi, la grosse chute de Saint-Etienne. Tout le monde voyait déjà, parce que Lyon va mal, tout le monde commençait à dire de toute façon Saint-Etienne.
Oui, enfin c'est jouable, hein, ils sont qu'à un point d'Auxerre, ils peuvent jouer la montée. Hein, ils sont pas,
non, mais ils jouent toujours la
et
montée.
Et trois points d'Angers, donc ça fait un match. Hein.
Voilà, et bien sûr, là ils sont cinquième. Mais bon, avant de recevoir Angers chez eux, ils avaient la possibilité de passer, de devenir leader de la Ligue 2, quoi. Ce qui aurait peut-être aussi tout changé dans le fait d'aller au Serbe. Et après, deux matchs comme ça, bon, bah, ça met quand même plus la pression.
Donc, allez, c'est sûr que. En national, donc 13e journée, là, le Restart continue son petit bonhomme de chemin, malgré une victoire qui a été un petit peu compliquée devant Marignane Gignac 2-1. Nette victoire de Versailles devant Nîmes 6-0. Donc ce soir va se jouer à 21h. Le Mans-Châteauroux, le Restart en tête avec 29 points, devant Niort 24 points, deuxième, troisième Rouen 22 points, Versailles est 9e, donc en milieu de tableau avec 17 points sur 18 équipes. Et on va rappeler que c'est Épinal qui ferme la marche avec 10 points, donc 18e et bon dernier. Donc tout va bien pour l'instant pour le Restart. Ça continue.
Ouais, pour le Restart qui a l'air, en tout cas, on a déjà vu hein, des équipes s'écrouler, notamment ça a été le cas de Martigues, je crois. Il y a deux ans, je crois, ou l'année dernière, qui avait à un moment donné quand même une grosse avance. Peut-être pas comme Red Star, comme les deux prochains montent. Ça doit faire combien là, 8 ou 9 points d'avance sur le troisième, quoi. Donc ça commence à devenir sérieux quand même, quoi. Mm-hmm.
Et puis chez les féminines, donc 7e journée, là aussi pas de problème pour Lyon hein, qui a cartonné contre Montpellier 5-0. Fleury, Mérogis, l'équipe du président Bovis a battu Bordeaux 2-1. Nette victoire du Paris FC à Saint-Etienne 6-1 et du Paris Saint-Germain à Dijon 5-2. Donc là, bah, on retrouve les 4 premières équipes classiques normales. Hein. Lyon en tête avec 21 points, devant le Paris FC 18 points, deuxième. Troisième Fleury 13 points et quatrième le PSG 12 points, mais deux matchs en moins pour les Parisiennes.
Ouais, voilà, tout à fait. Bon, maintenant ça sera, je pense que ça va être quand même dur d'éviter à Lyon de remporter le titre encore cette année. À mon avis, ça va être très compliqué, même si tout peut, non, en, pourtant chez les filles, il n'y a pas beaucoup de surprises
non,
en général.
Non, non, non. Allez, juste pour rappeler qu'en National 2, il n'y a pas eu de match entre Bergerac et Paris Atlético. Match reporté donc dans cette 9e journée. Toujours La Roche-sur-Yon en tête avec Libourne à 16 points. Devant Saint-Privé-Saint-Hilaire, Les Herbiers, Romorantin, donc Avoine-Chinon et Paris Atlético, 14 points. Juste pour finir ce point foot, Stéphane, un petit mot sur. On va rentrer dans une semaine internationale. On s'y attendait sur la titularisation de Zahir Emery.
Ouais, la sélection pour l'instant, la sélection. Hein.
Oui, oui.
Il faut pas oublier que.
Oh, il va faire quand même. Il va avoir un premier cap, je crois. Il aura un cap quand même. Il va jouer quand même.
Bah, on pense aussi, mais à l'heure où on se parle, hein, il y en a d'autres qui sont venus en sélection. C'est déjà énorme de venir en sélection. C'est pas forcément évident pour lui maintenant. Après, c'est Didier Deschamps qui fait ses plans, mais c'est sûr qu'il y a un titulaire indiscutable qui va être absent. Il va falloir le remplacer. Il y a Camavinga et Rabiot sont tous les deux gauchers, donc c'est peut-être pas l'envie de Deschamps de mettre deux milieux de terrain gauchers. Peut-être qu'il va vouloir un droitier. Alors, il y a Youssouf Fofana qui est habitué au poste. Et sinon, c'est vrai qu'on peut penser que
il va rentrer en cours de match, peut-être.
Ouais, qui est surtout grossé quand même Gibraltar. Hein, donc, c'est pas pour ça que ça va être facile collectivement, mais en tout cas, individuellement. Ça va être plus tranquille que de jouer contre les Anglais ou les Pays-Bas.
Très bien, Stéphane, merci. Hein. On vous retrouve par téléphone, je crois, avec Malik tout à l'heure, hein, comme prévu. Et puis, la semaine prochaine, ça sera une semaine très internationale. Donc, on aura l'occasion de commenter les derniers résultats qualificatifs pour la phase finale de l'Euro. Voilà. Merci, okay. Stéphane. Merci
en tout cas. Bonne soirée à toutes et à
voilà.
tous.
Merci. Voilà donc pour donc notre ami Stéphane Dezincleux, le point foot. Je voulais simplement vous faire une petite annonce. Il y aura le tournoi international en escrime handi valide de Villemomble. Ça sera ce week-end, donc les 18 et 19 novembre, au complexe Paul Delouvrier et compétition de fleuret et en épée. Et c'est la 6e édition de ce tournoi international. Donc allez-y. Et justement, on parlera de paralympisme la semaine prochaine, puisque. Si on avait parlé de la journée paralympique la semaine dernière avec notre invité Jean-Pierre Mougin, eh bien, on en reparlera la semaine prochaine parce qu'on a eu donc le dévoilement de la flamme paralympique. Donc, on vous passera quelques petites interviews. Voilà. Laura, bonne soirée.
Merci, hein. Bonne soirée voilà. À toi, donc, bonne soirée à tous.
La semaine prochaine, donc, le journal des sports pour continuer à suivre tous les clubs parisiens.
Exactement, hein, tous les sports.
Le Stade français, ça va bien, le Paris basket, ça va bien, ça va un petit peu moins bien pour le Paris volley, mais enfin bon...
On fera un point sur ça tous les lundis.
Merci en tout cas, Benoît, pour le MMA.
Merci à vous.
Ça t'a plu cette première radio ?
Franchement, c'était top. J'ai hâte de vous retrouver et j'ai hâte qu'on puisse discuter de plein d'autres choses autour du MMA.
Très bien, donc toi, ça sera tu reviens le 11 décembre. Hein.
C'est ça, le 11 décembre,
plus,
normalement.
Il y aura l'école de catch.
Exactement, donc hâte de discuter avec eux.
Voilà, merci en tout cas à Jason pour la mise en place de cette émission sur le plan technique. On finit avec Eminem, Lose Yourself. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci à tous et à tous. Tiens, on parlera de boxe aussi la semaine prochaine. Boxe et rap, tiens.
Ouais, ça
voilà.
Tombe bien.
Allez, bonne soirée.
Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured, just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous. But on the surface, he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud. He opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out. Time's up, over, plow. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit. He choked. He's so mad.